Au bord du lit, des aventures sonores créées sur mesure pour te faire voyager en restant sous ta couette. Tous les deuxièmes dimanches du mois, à 11h, prends le temps d'émerger au rythme d'histoires palpitantes et envoûtantes sur Prune 92 FM et en podcast sur prune.net.
Alors que le vent souffle très fort dehors, que la tempête fait rage, on se retrouve ici pour la première fois au bord du lit. Cette saison, tous les deuxièmes dimanches du mois à 11h, rendez-vous sur Prune pour vous extirper des tumultes du monde extérieur. Aujourd'hui, on accueille Raph Dola.
Salut.
Avec qui on vous a préparé une série de 3 émissions au processus de création un peu particulier.
Tout à fait, Solène. En tout cas, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec toi. Et donc on a l'opportunité de pouvoir enregistrer une série de podcasts racontés grâce à un tirage de cartes.
Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et nous expliquer brièvement comment on a procédé ?
Ouais, carrément. Bah, écoute, le concept est assez simple pour un petit instant personnel. Ma maman est une grande amatrice de cartomancie et elle m'a tiré les cartes dernièrement. Et j'avais une envie de découvrir de nouvelles choses, donc je me suis dit pourquoi pas moi ? Et donc j'ai commencé à tirer les cartes à des potes et puis je t'ai tiré les cartes.
Exactement.
Et on s'est dit, bah, pourquoi pas raconter une histoire à travers un tirage de cartes, tout simplement.
Merci. On vous laisse vous installer confortablement et profiter pleinement de ce voyage. À tout à l'heure. Sur la grande place pavée du village de Saint-Roustan, au centre, trône un imposant tombeau de pierre. Le monument est à la fois majestueux et silencieux, un rappel éternel de l'homme que toutes et tous vénèrent ici, le roi Hector, le fondateur du village. Hector, c'est notre dieu à tous. La légende raconte qu'il a sauvé d'une mort certaine des centaines d'enfants, d'hommes et de femmes en les guidant à travers les steppes hostiles, pour enfin arriver sur des terres plus accueillantes. On ne saurait dire pourquoi tout un peuple a dû partir comme ça presque du jour au lendemain. Peu après leur exode, ils arrivèrent sur des terres marécageuses mais fertiles. C'est alors que des événements étranges commencèrent à se succéder. Le goût de l'eau changea. Des animaux disparurent sans laisser la moindre trace, la moindre empreinte. Les stocks de nourriture partaient comme peau de chagrin de façon inexpliquée. Et surtout, Hector se mit à agir de manière étrange. Son humeur devenait de plus en plus instable et il disparaissait parfois pendant des jours, des semaines, voire des mois. Mais pourquoi cette fuite soudaine ? Un matin, son corps fut découvert sans vie, étendu devant le seuil de sa demeure saint-roustienne. Dans sa main droite, il serrait une mystérieuse coupe dont personne ne connaissait l'origine. Tout cela s'est déroulé il y a maintenant 150 ans. Bien que la légende du roi soit racontée chaque année, le mystère autour de sa mort plane toujours, enveloppant ainsi les contrées du village d'un voile voilé. Ce soir, c'est la fête. On célèbre Hector comme chaque année. La place, habituellement calme au crépuscule, est cette fois-ci illuminée par des feux de torches et envahie par les rires et les beuglements des villageois qui échangent autour de cette figure éternelle, mais surtout de leur tracas du quotidien. Les grandes tables de bois ont été dressées autour de la place, chargées de mets délicats et appétissants. Des faisans rôtis, des saucisses fumées et des fromages aussi vieux que la pierre tombale qui trône aux côtés des corbeilles débordant de fruits des marais. Les chants, tantôt justes mais bon, souvent désaccordés, résonnent dans l'air chaleureux. La fête bat son plein en l'honneur de ce roi qu'on glorifie pour son passé. Et oui, on célèbre son courage, sa détermination, qui doivent être un exemple pour tous les jeunes, comme moi. D'ailleurs, ouais, je m'appelle Vera, et aujourd'hui, avec mon frère Alda, c'est notre fête à nous aussi. Et oui, le banquet tombe pile le jour de notre majorité. C'est le grand jour. On peut enfin quitter le village. On rigole bien avec les copains, on se raconte toutes sortes d'histoires. Et puis, pour la première fois, on a le droit de goûter au vin, une boisson qui est réservée aux plus vieux, mais qui ce soir coule à flot pour tout le monde. Après quelques éclats de rire et échanges conviviaux, Félix, les joues cramoisies, l'esprit guilleret et les yeux aussi pétillants que les spiritueux du village, se penche vers le creux de mon oreille, le sourire aux lèvres. D'après ses dires, son grand-père, autrefois brigand, lui avait juré que la tombe renfermait d'incroyables trésors, des bijoux et des objets au pouvoir magique. Mais jamais personne n'a pu vérifier la véracité de cette histoire. Aujourd'hui, plus personne ne garde le tombeau, les rumeurs ayant disparu avec le temps. L'idée de découvrir ce qui se cache dans ces vestiges nous titille depuis des mois. Alors on se regarde avec Alda, Félix et Léna. Ce soir, c'est l'occasion ou jamais. Tous les adultes sont trop occupés à festoyer pour nous remarquer. Il faut qu'on aille voir de nos propres yeux les secrets que recèle notre roi. Alors ni une ni deux, direction l'atelier de la mère de Léna. Elle est ferronnière. Objectif, choper quelques outils chez elle et, à la lueur pâle de la lune, direction la vérité. Direction le tombeau du roi Hector.
Pas évident à soulever ce gros caillou. Il a été bien scellé. Et puis, il est beaucoup plus imposant quand on se trouve juste à côté. Il est aussi grand que nous. Le marbre est usé par les années. Sa surface autrefois lisse est maintenant marquée de fissures et de cicatrices, malgré le respect que lui prêtent les habitants de Saint-Roustan. Les racines des plantes environnantes lancèrent comme les doigts noueux d'une main ancienne. Après s'être mis d'accord sur le mode opératoire de notre équipe de choc, on se lance. Quelques coups de burin bien placés, la pierre commence à bouger. Ha ! On s'y met à quatre, l'union fait la force. Chacun de nous sent les muscles de ses bras et de son dos tirés à l'unisson. Le souffle court, les mains moites. J'ai la tête qui tourne. Corne de bouc ! Seraient-ce les effets recherchés par l'élixir qui coule dans les veines des plus âgés passés la majorité ? Ah, la pierre est lourde, notre élan hésitant. On lâche rien. On la pousse de toutes nos forces. Le poids du monument et de toute l'histoire qu'il incarne pèse lourdement sur nos épaules. Avec abnégation, le bloc finit par céder. Laissant un espace sombre, mais assez large pour qu'on puisse entrevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Un souffle d'air glacial s'échappe de la tombe. Hera, Léna, Félix, moi, nous restons toutes et tous figés sur place, pris de palpitations soudaines. Cet air semble ne pas appartenir à notre monde, chargé de quelque chose de très ancien, d'un lourd passé, comme si le vent des marécages s'échappait des entrailles de la terre. Diante ! Ah, ça chlingue ! Une odeur fétide se fait sentir instantanément. Un mélange de moisissure et de terre pourrie, imprégnant l'air de relents de mort. Pouah ! C'est donc ça qui mènera notre odeur à la toute fin de notre vie sur cette bonne vieille terre ? Morte couille ! On se regarde, franchement pas très rassuré, les corps tremblants. J'ai le teint livide. Léna tremble légèrement et Félix, d'habitude parmi les plus téméraires de la bande, reste cette fois-ci bouche bée. Au loin, même les bruits de la fête semblent s'être éteints, comme si le village retenait son souffle face à notre audace. Ou devrais-je plutôt dire notre stupidité juvénile ? Le temps d'un instant, j'ai l'impression d'avoir commis une grave erreur en forçant ce tombeau avec les copains. L'atmosphère est si pesante que ça ne présage rien de bon. Sacrebleu, le silence est si lourd, si dense, qu'on pourrait presque le trancher pour y déposer le bleu du fromager qui tient son échoppe près de l'église du coin. Tu me diras, l'odeur du fromage sera toujours meilleure que celle des restes de notre bon vieux roi. J'entends les battements de mon cœur tambouriner plus fort que le rythme des percussions de l'oncle Rignan les soirs de fête. Chaque battement résonne dans mes oreilles. Mes pensées se bousculent et se perdent, laissant petit à petit place à l'angoisse. Alors que je reste tétanisé par la peur, Vera se met à escalader le rebord du tombeau pour découvrir son contenu. Se laisser submerger par les émotions ? Morticus ! Trop peu pour elle ! Elle s'avance, son visage disparaît dans l'ombre du mausolée, ne laissant entrevoir que sa silhouette légèrement tremblante. Elle inspecte, en silence, ses mains glissent sur les reliefs de pierre, tâtonnant à l'aveugle. Son regard se balade de part et d'autre, scrutant chaque recoin, chaque aspérité d'une main sûre. Soudain, Vera s'arrête, net. Son visage pâle, éclairé par la lumière froide de la lune, fixe un point précis dans l'obscurité. Elle plonge sa main dans l'antre du tombeau et essaie d'attraper quelque chose de... Ah, ça semble coincé. Sa respiration s'accélère. Elle y met toutes ses forces, tirant de tout son poids jusqu'à ce qu'un grincement lourd et sinistre résonne dans la nuit. Finalement, cela cède. La tension est palpable. L'air semble vibrer autour de nous. Elle se tourne vers nous et, devant nos yeux ébahis, elle brandit fièrement une coupe. l'objet insolite capte la lumière lunaire d'une manière presque surnaturelle, la rendant encore plus étincelante et éblouissante. « Par les saints relieurs, je n'ai jamais rien vu de pareil. La chose n'est pas très grande, environ 15 cm. Elle brille de 1000 feux au milieu des étoiles. Elle est dotée d'un petit pied finement sculpté, des arabesques sinueuses enroulées autour de son socle et de son col. » Vera s'approche de nous, un grand sourire figé sur son visage.
Et regardez, il avait caché ça sous sa cape. Bon, maintenant il ne reste plus grand-chose et la lumière de la lune l'a fait briller. C'est trop beau, non ?
Tous, émerveillés, sans voix, fascinés par cette relique, nous observons les détails de sa surface et l'aura mystérieuse qui émane de la coupe. Léna la saisit alors et commence à l'inspecter plus précisément. Le manque de lumière nous fait défaut. On décide alors de se replier chez sa mère pour continuer d'admirer ce trésor. L'éclat des flammes saura nous éclairer et nous permettre de mieux observer notre découverte. On referme le tombeau et on court à travers les ruelles sombres, direction l'atelier de ferronnerie. On s'installe tous les quatre autour de la table, la coupe au centre de la pièce et au cœur de toutes les attentions. Son éclat doré sonne encore plus vif à l'intérieur, sous la lueur vacillante des flammes. Plus je la regarde, plus j'ai l'impression de voir des détails qui m'échappent. Des motifs floraux délicats s'entrelacent sur la surface dorée, dépeignant ce qui semble être une scène mythologique. Un homme au regard dominateur, entouré de créatures fantastiques, dragons serrés, et serpents marins. Un bestiaire qui ferait même fuir les villageois les plus chevaleresques de notre bon vieux bourg. Sur le bord du réceptacle, des symboles inconnus, gravés avec une précision incomparable. Des inscriptions si fines qui cachent forcément un lourd passé. Félix tend une main hésitante, comme s'il craignait que le simple fait de toucher la coupe la ferait disparaître. Mais Léna s'empare de l'objet, ses doigts fins le faisant tourner doucement sous la lumière pâle.
Eh, vous avez vu ces gravures ? On dirait un vieux langage ! Je me demande ce que ça signifie.
Soudain, un léger courant d'air fait vaciller les flammes. L'ombre de la coupe se dessine étrangement sur le mur, formant un symbole énigmatique. Une série de courbes et de lignes. Léna plisse les yeux, tentant de lire à haute voix les gravures.
Qu'il en soit de l'unité, six fois scellée, et le jour reviendra. Là où la nuit sommeille, la gloire viendra.
That I hate, and all I am. not a crack, it's not a shame. Let's burn the flame. Just now, it's not a fall, it's not a dam. We're just the same.
On est un peu sonné par cette mystérieuse découverte. Au moment où Vera a prononcé les mots que formaient les ombres de la coupe sur le mur, un orage d'une intensité titanesque s'est abattu sur le village. La fête est définitivement terminée. On fait vraiment plus les malins maintenant. J'ai quand même l'impression qu'on a mis la main sur quelque chose qui aurait bien fait de rester enfermé sagement dans son tombeau centenaire. Mais bon, c'est fait. Maintenant, il va falloir qu'on élucide le mystère de cette étrange phrase.
Qu'il en soit de l'unité, six fois six, et le jour reviendra. Là où la nuit sommeille, la gloire viendra.
Six fois scellé ? Et ça fait référence à quoi ? Franchement, je vois pas les six doigts de la main, les six péchés capitaux, Blanche-Neige et ses amis les nains ?
Les suppositions vont bon train, et pendant qu'on énumère toutes les possibilités qui nous passent par la tête, Léna continue de scruter attentivement l'objet.
Eh, mais regardez là ! Il y a des éraflures ! On dirait des formes !
Je m'approche, et... sous le socle de la coupe, je les vois moi aussi, ces traits, ce dessin. Enfin, je les distingue plutôt. Les gravures semblent avoir été polies par le temps et les nombreuses mains qui ont tenu cet objet si précieux. Pour y voir plus clair, Léna s'approche du feu. Instantanément, la coupe semble prendre vie. Les frêles gravures se transforment en sillons ardents et dessinent des formes géométriques. Elles semblent bouger. On est tous ébahis. Léna la première qui a failli lâcher l'objet lorsque les lignes se sont mises à brûler. Félix prend peur, ça commence à devenir trop pour lui.
Non mais c'est bon les copains là, j'arrête. Je la sens pas votre histoire là. D'abord, le vent qui s'échappe de la tombe qui vous glace le sang. Puis, l'odeur de poisson plus que pourri, l'orage qui s'abat sur le village, et maintenant, une coupe qui prend feu. Ça pue l'embouille votre truc là, je me barre.
On n'a même pas le temps d'en placer une que Félix était déjà parti. on entendait distinctement son pas pressé s'éloigner de l'atelier. On n'a pas essayé de le rattraper, trop fasciné par ce qui se déroulait sous nos yeux. On regardait ces lignes de feu danser sur le métal et petit à petit se figer.
On s'approche avec Alda et tous les trois, on essaye de décrypter ce dessin. À gauche, il y a des cercles, 4 exactement, qui ont l'air disposés de façon aléatoire. Sur l'arête qui est du côté du sol, il y a 3 triangles isocèles. Et sur la partie droite, des flèches, par dizaines, qui s'entremêlent et se chevauchent, mais toutes sont dirigées vers la même direction, le haut du socle. Et puis, il y a cette ligne qui ressemble à un bâton, gravée de façon plus épaisse que les autres formes. Elle traverse le socle en partant du coin en haut à gauche et s'arrête à l'intersection entre les cercles et les flèches. On reste assis tous les trois au coin du feu en essayant de comprendre ce que ces signes peuvent bien vouloir dire. Mais nos yeux commencent à piquer de fatigue. Je vois Alda qui s'est déjà assoupie. Je pose ma tête sur son épaule et je ferme les yeux à mon tour.
On se fait réveiller par Léna qui nous hurle dans les oreilles.
Ça y est, j'ai compris! C'est un plan! Faut qu'on aille à la lisière de la forêt! Doit y avoir un truc là-bas! Allez hop hop hop, on y va là, debout là-dedans!
Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes?
Regarde, ici, c'est chez nous. Les cercles, ça représente les marécages et les 4 grandes mares. Le rond barré, c'est une boussole. Les 3 triangles au sud, ce sont des 3 grandes montagnes. Et les flèches, c'est la forêt des liandes, la forêt des grands sapins.
Attends.
Et là, la sorte de bâton, là. Non mais attends, tu vas voir, ça nous a dit qu'un lieu, l'orée du grand bois,
hein?
la partie la plus haute de la forêt.
Quoi?
C'est marrant parce que c'est là qu'habite Félix et sa grand-mère. Faut qu'on aille le voir, vite, 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 debout.
Ok. Entraîné par l'énergie débordante de Léna, on se retrouve dehors. Munis d'un sac à dos rempli de quelques victuailles et de notre précieuse découverte, nous partons, direction l'orée du Grand Bois. Après 2 heures de marche, on arrive devant la maison de la grand-mère de Félix. Une petite maison en pierre très coquette, avec un parvis recouvert de fleurs en tout genre. Il y a de la fumée qui sort de la cheminée et... Ça sent bon le ragoût de mouton jusqu'à l'extérieur. Ça tombe bien, j'ai la dalle. On tape à la porte et ferme. La grand-mère de Félix vient nous ouvrir.
Oh, bah qui voilà ! Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu dans le coin, dis donc. Vous tombez bien parce que Félix est enfermé dans sa chambre depuis ce matin et il répond pas quand je l'appelle. Je me suis un peu inquiétée au début, alors je suis allée écouter à sa porte et je l'entends faire les 100 pas dans sa chambre, j'ose pas le déranger. Peut-être que si c'est vous, il voudra bien vous parler. Allez, entrez. Je vous prépare une belle assiette de ragoût en attendant.
Du ragoût ? Dès le lever du soleil ? Ha ! Vous savez me parler, grand-mère.
On monte l'escalier qui donne sur la chambre de Félix et on l'entend effectivement marcher frénétiquement et marmonner.
Félix, c'est nous ! Tu vas bien ? Faut qu'on te raconte, c'est un truc de dingue ce qu'on a découvert ! Tu vas halluciner ! Allez, 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 ouf, ouf, ouf !
On entend Félix s'arrêter de marcher et se rapprocher. La poignée tourne et la porte s'ouvre doucement. Il se trouve devant nous, l'air livide, des cernes violettes comme les prunes de mon jardin. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Je m'avance vers lui pour l'enlacer et soudain je remarque qu'il tient quelque chose dans sa main droite. Pas de doute possible, c'est une coupe. Tu veux en savoir plus sur cette mystérieuse histoire de coupe ? L'histoire continue dimanche 10 novembre à 11h, au bord du lit, sur Prune 92 FM.